Bonsoir à toutes et à tous, et bien c'est l'heure de l'Opus Festival depuis l'hôtel Le Maréchal de Colmar.
Opus Festival International de Musique de Colmar, hommage à Evgeny Kissine. Une émission d'Accent 4, en partenariat avec le Festival International de Musique de Colmar, et avec le soutien du CICS Tarpège Armand Meyer et de l'hôtel Le Maréchal de Colmar.
Merci à vous d'être fidèles à Accent 4, partenaire du Festival de musique de Colmar. Aujourd'hui, je reçois deux musiciens qui se sont produits à 12h30 au Coiffus de Colmar, le pianiste Romain Descharmes et le violoniste Pierre Fouchéneret. Bonsoir et merci à vous d'avoir accepté cette invitation. À l'heure où sera diffusée cette émission, Evgeny Kissine, Vladimir Spivakov et le quatuor Koppelman joueront des œuvres de Chostakovitch et Evgeny Kissine. Puis à 21h à l'église Saint-Mathieu, Vladimir Spivakov et les musiciens de l'Orchestre National Philharmonique de Russie seront les complices du jeune violoniste Daniel Lozakovitch au programme Tchaïkovski, concerto pour violon et Brahms 4e symphonie. Seongjin Cho aurait dû être notre invité hier, mais il a dû annuler en raison des répétitions. Eh bien, nous allons quand même l'écouter dans Passe-Pieds, extrait de la suite Bergamasque de Claude Debussy.
Thank you.
Nous écoutions Sing Jin Sho dans Passe-Pied de la suite Bergamasque de Claude Debussy, un disque Deutsche Grammophon. Evgeny Kissin présentera à la Chapelle Saint-Pierre à 18h15 quelques-unes de ses œuvres. Romain et Pierre, est-ce qu'à un moment ou un autre, la composition vous interpelle, Romain ?
Oui, c'est sûr. Alors, mais plusieurs fois, moi, j'ai essayé je me suis amusé à me mettre devant une feuille de papier à musique avec un crayon. J'avais beaucoup, beaucoup d'idées dans ma tête. Et après, je me suis dit, alors, comment on écrit ça ? Et puis, en fait, finalement, on se rend compte que c'est pas si facile que ça. Enfin, c'est extrêmement difficile, en fait. On a beau avoir beaucoup d'idées, les coucher sur le papier, c'est vraiment un exercice, très, 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 très... très compliqué et j'adorerais moi pouvoir le faire, mais les idées suffisent pas en fait.
On se sent sûr avant de noter ?
Non, pas sûr, mais on se dit tiens, j'aimerais bien entendre ça et après comment on l'écrit ? C'est ça, pour que ça sonne comme ce qu'on a dans la tête, comment le coucher sur le papier ?
Pierre ?
Moi je crois que c'est un métier à part entière et des études aussi qui sont des études spécifiques pour pouvoir réaliser la problématique que soulève Romain. Et c'est des études que j'ai pas faites personnellement et qui je sens bien qu'il y a une grande limite pour moi si je décidais d'être comme ça. Ça se décide pas comme ça d'être compositeur, comme ça se décide pas comme ça je vais être violoniste. Non, c'est 20 ans d'études et un travail quotidien. Je crois que chez le compositeur il y a quelque chose comme ça aussi.
Moi, j'avais écrit des petites choses quand j'étais petit, vraiment très très jeune, des tout petits morceaux d'une dizaine de mesures, et je m'en souviens encore,
ah
c'est
oui.
Marrant, c'est des trucs tout simples.
Alors les pianistes ont peut-être un petit peu plus de évidemment ils ont une lecture plus complète, parce qu'ils jouent plusieurs notes à la fois, ce qui n'est pas le cas des instrumentistes.
Après, je pense que c'était quelque chose qui ressemblait à des morceaux que je jouais.
Oui, c'est ça.
C'est probablement ça aussi, mais
bien sûr.
En tout cas, je me souviens d'avoir écrit, c'est ça. Ouais. C'est une sensation assez incroyable.
D'ailleurs, Edgar Moreau a pris le piano pour avoir une vision autre de la partition, une vision polyphonique.
Oui,
Vous aussi, un peu de piano.
Moi, je l'ai pas fait pour ça, mais j'ai eu des professeurs qui ont pensé pour moi. Mon professeur de violon a vu que j'étais relativement doué pour le violon, et puis il a dit à mes parents, ce serait bien qu'il fasse du piano parce que ce sera très utile pour lui pour avoir une vision justement complète de la musique, évidemment. Et je suis très 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 heureux qu'il m'ait encouragé là-dedans, parce qu'évidemment ça apporte quelque chose.
Alors ce concert de 12h30, ce n'est pas le premier de votre duo. Vous avez l'habitude de collaborer assez régulièrement ensemble, Romain.
Nous, ça fait maintenant 10, non plus, un peu plus maintenant, 12 ans qu'on joue vraiment très régulièrement ensemble. On s'est connus au conservatoire. Là, on jouait pas vraiment ensemble. Enfin, on se fréquentait pas trop. Et après le conservatoire, oui, on a eu plein d'occasions dans divers festivals. Voilà, on se rencontrait de plus en plus. Puis après, on a vraiment décidé d'avoir quelque chose d'un peu solide. Enfin, une collaboration solide. Voilà.
C'est bien de s'attacher à un partenaire.
Oui, surtout quand il y a une rencontre qui est évidente musicale. C'est quand même, mais c'est pareil. Hein. Enfin, c'est une histoire de travail en fait. C'est une histoire de et le temps dans le travail, ça n'a pas de prix. Donc évidemment, plus la collaboration dure, plus on va loin, plus les problématiques qu'on va soulever en répétition sont complexes et peuvent nous amener là où notre idéal veut nous porter, quoi. Donc le temps dans une collaboration, ça veut dire aussi l'expérience de la scène, ça veut dire une accumulation de répétitions et un vocabulaire commun, une grammaire commune. Et ça n'a pas de prix à un moment donné où c'est
tout se règle beaucoup plus facilement.
Oh, oui, et puis voilà, on est beaucoup moins frustré aussi.
Alors ce midi au Koifus, vous avez joué la première sonate que Brahms a composée à l'âge de 46 ans et la célèbre sonate à Kreutzer de Beethoven. Dans son texte de présentation du programme général du festival, Jean-Jacques Grollo écrit « Brahms attendra d'avoir 46 ans avant d'oser publier une composition pour violon et piano. Était-ce l'ombre de Beethoven qui planait sur lui, inquiétante et inhibante ?» Pierre.
Oui, je crois que Beethoven, il aura fait peur à beaucoup. Hein. Il a fait pareil pour les quatuors à cordes. Je crois qu'il en a écrit 15 avant de sortir le premier. Donc et là, c'est certain qu'on peut parler de l'ombre de Beethoven. Et il est très probable que pour les sonates violon-piano, ce soit de cet ordre-là. Hein.
Même pour sa première symphonie.
Oui, bien sûr, absolument. Symphonie, quatuor, bon, je pense que voilà, c'est sûr que... Mais c'est une réussite, cette première sonate. Vraiment, c'est extraordinaire.
Ah bah, je pense que pour nous, c'est une des plus belles, belles dans le sens... C'est même pas que c'est beau, quand on joue ça, on arrive à un état de plénitude, un état de gentillesse, un état de bienveillance absolument génial. Jouer cette sonate sur scène, c'est incroyable, vraiment.
Alors, vous avez enregistré l'intégrale des 10 sonates pour violon et piano de Beethoven lors d'une série de concerts en 2015. Comment prépare-t-on un tel cycle? Est-ce qu'on l'imagine sous la forme d'un cycle?
On l'a un peu fait comme ça, parce qu'on a décidé de les jouer de... Ah, je me souviens plus d'ailleurs. On les a joués dans l'ordre l'ordre des sonates.
Tu veux dire la première fois?
Oui. Pour l'enregistrement.
Pour l'enregistrement, non. On avait fait un ordre différent parce qu'on a enregistré en live. Donc il fallait qu'il y ait un format qui fonctionne aussi, que les concerts soient variés, qu'il y ait un mélange entre les premières sonates de jeunesse puis les dernières. En fait, ça s'est fait parce qu'on en a joué une un jour, et puis une deuxième, une troisième, et qu'on était complètement fascinés par l'immensité de la complexité du langage, de l'évolution aussi à l'intérieur de ces 10 sonates. Et je ne crois pas qu'il y ait de cycle aussi intéressant pour violon et piano, c'est-à-dire qui parcourt la vie d'un compositeur, vraiment des sonates de jeunesse, puis la dernière, on peut parler quand même du grand Beethoven, opus 96, qui commence à... Et on traverse la vie du compositeur dans une formation qui nous est chère. Et non, il n'y a pas d'équivalent. Donc évidemment, on l'imagine en termes de cycle. Après, je parlais de grammaire.
Une sonate s'éclaire quand même. Une sonate éclaire l'autre.
Voilà, exactement. Parce que je parlais de grammaire tout à l'heure dans le travail. Mais chez Beethoven, particulièrement une grammaire spéciale, une grammaire commune. Et puis on apprend une, effectivement, ça apporte à l'autre. Et puis à un moment, ça paraît évident qu'il faut qu'on joue les 10 pour notre propre parcours déjà, et puis pour faire partager.
On prend ça comme un voyage, en fait, comme un cycle, un voyage dans la vie du compositeur, et puis un voyage musical. Quand on commence, maintenant on peut plus voir ça comme je joue une sonate, puis je joue une autre sonate. Maintenant on a envie de jouer les 10.
Oui,
en
c'est
fait.
Vrai.
C'est comme une énorme, une gigantesque sonate qui fait 10 sonates en fait. Et là du coup on prend un vrai plaisir à faire ça maintenant.
Ouais. Et vous les avez enregistrés dans une salle, la salle nationale du Trident à Cherbourg-Cotentin. Une salle particulière, il y avait une atmosphère particulière dans ce lieu.
C'est un très 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 joli théâtre à l'italienne. À la base, on devait filmer tout ça, puis ça ne s'est pas fait. On s'est contenté de l'enregistrement. Et voilà, c'est une salle magnifique, avec une sonorité assez aride, presque sèche. Mais ça convient bien au côté un petit peu cru et vrai qu'on peut toucher de Beethoven. Je trouvais que le son finalement était... c'est un vrai son, c'est pas un son trop enrobé, c'est un vrai son. On a l'impression qu'on peut croquer.
Alors Mona Guichard de la scène nationale donc du Trident à Cherbourg-Cotentin a écrit dans le texte de la plaquette « Chaque jour, nous avons observé les deux musiciens dans la nudité du théâtre vide, rechercher le dialogue entre les deux instruments. Le violon me semblait minuscule entre les mains de géant de Pierre Fouchéneret, à la présence solaire, et je me souviendrai longtemps de Romain Deschamps, regard clair et paroles rares derrière le clavier de l'immense piano. »
Thank you.
Pierre Fauchenneret, violon, Romain Deschamps, piano, étaient les interprètes du mouvement final Allegro Molto de la sonate en mi bémol majeur, opus 12, numéro 3 de Beethoven, une publication Aparté. Continuons avec la musique de chambre. Pierre, avec certains de vos amis musiciens, vous avez eu une idée un peu folle, en tout cas un jour de folie, vous le dites, celle de jouer en concert et d'enregistrer toute la musique de chambre de Brahms.
Oui, toujours l'idée des cycles qui revient souvent chez moi, parce que quand je commence à me passionner d'un compositeur, j'ai évidemment envie d'essayer d'avoir la vision la plus complète possible. Et puis, je trouve que Brahms se prête vraiment à l'idée de la troupe, des amis, du partage. C'est vraiment une musique qui appelle la convivialité comme peu d'autres. Et voilà, on a eu la chance d'avoir le Théâtre des Bouffes du Nord pendant 4 jours à Paris, qui est une salle absolument sublime, comme terrain de jeu, et qui nous a permis de réaliser ce rêve, ce pari, ce marathon, on appelle ça un peu comme on veut. Et c'était vraiment un grand, grand bonheur. Ouais.
Romain, Brahms qui a aimé comme personne les formations de chambre.
Oui, moi, déjà, je suis très, très attaché à la musique de chambre en général. Et évidemment, celle de Brahms en particulier. Cette espèce de, ouais, comme je disais, de bonheur de jouer ensemble, en fait. C'est vraiment ça. Il nous a laissé des pages absolument sublimes. On peut vraiment se plonger dedans. C'est vraiment un partage, quoi. C'est vraiment un partage. C'est jamais une guerre. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de bonheur. Ouais.
Pierre, lorsque vous dites que lorsque vous voulez découvrir un compositeur, vous vous lancez dans une intégrale, est-ce que vous écoutez toute la musique ? Est-ce que vous avez pour Brahms écouté les symphonies, écouté les leaders ? Êtes-vous intéressé à sa vie ? Avez-vous lu des biographies, notamment celle de Claude Rostand et
oui.
D'autres ?
Alors oui, bon, en plus là, c'était génial parce que les éditions d'Actes Sud ont sorti tout le recueil de la correspondance de Brahms, qui est un bouquin que je conseille vraiment, c'est génial.
Christophe Lauten.
Ouais, c'est génial. Enfin, bon, il y a des tas de trucs. Donc oui, absolument, mais bien sûr. Et puis, j'ai pas attendu de faire cette intégrale pour faire tout ça aussi, parce que évidemment, Brahms, c'est pas comme si je me lançais dans un compositeur inconnu. Donc Brahms, évidemment, a jalonné ma vie d'étudiant, déjà, et puis d'enfant aussi. Hein. Les symphonies, je me souviens... d'avoir découvert le DVD, enfin à l'époque c'était une cassette de Kleiber dirigeant la 4e symphonie, et oh là là, quel souvenir d'enfance, quoi, incroyable, en me disant mais c'est pas possible cette musique, c'est pas possible ce chef d'orchestre, donc oui bien sûr.
La correspondance qui est sortie en français, puisque oui. Les lettres n'avaient jamais été traduites.
Exactement.
Et c'est effectivement passionnant, parce que le style de Brahms, c'est un style extrêmement direct.
Ah oui, c'est génial. Et puis, j'adore particulièrement les lettres qu'il échange avec Joachim, qui était son ami violoniste, avec qui il échangeait au sujet de ses pièces, en lui demandant conseil. Et puis, c'est très drôle, ils avaient des jeux. Alors, on se dit quand même que la vie a bien changé, puisqu'il jouait à des jeux de contrepoint, alors ils s'envoyaient des exercices de contrepoint par la poste, enfin bon, c'est incroyable, quoi. Aujourd'hui on est loin de ça, malheureusement.
Et puis dans ces lettres, on découvre toute la tendresse aussi qu'il a pour Clara Schumann, ah, oui. Qu'il vous voit dans les premières, et à la fin il la tutoie.
Absolument.
C'est extrêmement émouvant. Vous avez lu
je connais ce livre, ouais. Pierre m'en avait parlé d'ailleurs, ouais. c'est pour ça.
Alors vous participez vous aussi à cette intégrale Brahms, Romain ?
Oui, alors j'ai eu, pour cette série de concerts au Bouffes du Nord, oui, on s'est partagé avec Eric Lesage, faire partie du voyage, c'est tout ce que je rêvais, en fait, ça c'est sûr. C'est... Ouais.
On va vous écouter dans le rondo à la hongroise du Quatuor opus 25 en sol mineur. Vous êtes accompagné, Pierre, d'Éric Lesage au piano, Lisberto alto et François Salk, violoncelle. Thank you. En public, Éric Lesage, Lise Berthaud, François Salk et Pierre Fouchéneret interprétaient le rondo à la hongroise du quatuor avec piano en sol mineur opus 25 de Johannes Brahms. Alors, c'était très amusant pendant l'écoute de ce mouvement final du quatuor. C'était vos commentaires.
Ah oui, bon, évidemment, en fait, c'est le disque, c'est... Enfin, moi, très souvent, j'ai considéré le disque comme une étape quasi... comme un prolongement de mes études, en fait. C'est une expérience, on fige, enfin, malgré nous, on fige quelque chose à un moment donné, mais évidemment, la musique, on continue de la penser, d'essayer de trouver des solutions, des astuces, enfin, sur la construction, sur la... c'est jamais fini, quoi. C'est pas parce qu'on a enregistré à un moment donné une pièce qu'on a réussi à la jouer sans fausse note qu'on y est arrivé. Là, c'est beaucoup plus compliqué et profond que ça. Donc, tout est toujours un sujet à débat et à discussion. Et j'adore faire ça, en plus, avec Romain, de discuter de tout ça.
Surtout parce qu'il y a, surtout dans ce genre d'œuvre que tout le monde a joué des centaines et des centaines de fois, il y a toujours des options d'interprétation. Voilà, on peut aller un peu plus vers le bleu, un peu plus vers le jaune, un peu plus vers le vert. Et en fait, ça... Tout est vrai, en fait. Tout fonctionne. Mais après, voilà, c'est juste des options d'interprétation. Mais c'est marrant parce que quand on est... Moi, quand j'étais plus petit, enfin, étudiant, on a l'impression que il faut absolument que je joue telle œuvre comme ça, parce que c'est comme ça que ça doit se jouer, parce que je l'ai entendu comme ça. Et en fait, au fur et à mesure des années, on va dire, puis des concerts, on se dit, ah ben non, mais autre chose est possible, c'est tout aussi bien. Et puis après, oui, c'est vrai, entre nous, là, on a beaucoup de complicité, donc on s'amuse, en fait, avec ça. On s'amuse, donc on se dit, tiens, aujourd'hui, non, je veux le prendre plus lent, aujourd'hui, je veux le prendre plus vite. Et puis l'autre, il suit, et puis donc c'est une espèce de complicité comme ça qui se passe sur scène, en fait, surtout, souvent, c'est sur scène.
Alors, un jour, à ce micro, Michael Roudy me disait qu'un disque pouvait être une œuvre d'art. J'ai l'impression que vous n'allez peut-être pas le suivre sur ce terrain-là,
non,
Pierre.
Non, c'est sûr que non. Ouais, non, non. Pour moi, bon, c'est une façon un peu formidable de pouvoir écouter de la musique. En fait, ce qui est formidable, c'est que les gens peuvent avoir une diversité de musique, d'interprétation à portée de main. Ça, c'est quand même extraordinaire. Mais il y a un danger quand même avec le disque, c'est de figer des traditions d'interprétation. Justement, de quand les gens s'attachent trop à une version et non pas à la curiosité d'aller en écouter d'autres, ils veulent réentendre ça. Et évidemment, quand ils vont au concert, des fois, ils sont presque déçus de ce qu'ils entendent. C'est passionnant à faire, c'est passionnant à écouter, mais c'est pas du tout, du tout une fin en soi, et c'est quelque chose surtout qui est très, très, très loin de l'imaginaire des compositeurs. C'est-à-dire que jamais Brahms a composé dans l'idée de figer ça sur un disque, il savait même pas ce que c'était. Encore moins Mozart et Beethoven, et voilà. Donc la musique, elle est en... Elle bouge, quoi. Il faut qu'elle bouge.
Un message que vous pouvez aussi adresser aux critiques musicaux. Ils viennent trop souvent avec leur idée préconçue et ils ne veulent pas, absolument pas qu'on en déroge.
Je ne les connais pas, je ne les fréquente pas, c'est mieux comme ça.
Romain, pour le label Naxos, vous avez enregistré une intégrale des concertos pour piano de Camille Saint-Saëns. Le dernier volume, les concertos 4 et 5 viennent de paraître. D'ailleurs, le cinquième est composé un an avant la mort de Brahms. Quel parcours étonnant que ce compositeur qui a rencontré Berlioz et qui meurt à l'époque où les règles de la tonalité, le LA, tonalité, sont abolies par Schoenberg.
Oui, c'est ça. On pourrait le prendre un peu comme un musicien... Enfin, il est trop souvent décrit comme un musicien trop académique, bon, un peu austère. Moi, je trouve pas. C'est de la musique extrêmement vivante. Alors oui, même moi, dans ces concertos, j'ai découvert des choses qu'on joue jamais. Premier, bah, évidemment, tout le monde connaît le deuxième, le cinquième, évidemment. Le premier concerto, il y a beaucoup de gammes, c'est vrai. Il y a quelques longueurs, c'est vrai. Mais après, à nous d'en faire quelque chose. Et c'est franchement une musique qui mérite d'être jouée, d'être enregistrée, d'être écoutée.
Aride, non, quand on écoute le cinquième concert.
Non, bah non, 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 mais dans le côté enfin, académique plutôt, voilà. Voilà. Mais le cinquième concerto, non, il y a des trouvailles absolument formidables. Enfin, on voyage, c'est il utilise le piano, bah, comme personne. Enfin, c'est
un peu jazzy aussi de temps.
Bah,
en temps.
Un peu jazzy, et puis c'est très 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 bien écrit. Donc c'est jouissif à jouer vraiment.
Et ouais. Sa musique de chambre.
Alors, moi j'ai joué, c'est un peu pareil. J'ai joué des trios, le deuxième trio de Saint-Saëns. Qui est pareil, c'est bon, on se dit c'est trop long, il y a trop de notes, mais en fait quand on se prend au jeu, voilà, c'est absolument génial à faire en fait en concert. Voilà. Après, il faut se mettre dedans pour le travailler. Voilà, bon, c'est juste, il faut passer cette barrière là.
L'idée d'une intégrale musique de chambre de Brahms, de Saint-Saëns, pardon.
La production est quand même un petit peu moins intéressante que... Mais j'ai beaucoup de tendresse pour Saint-Saëns, pour la simple et bonne raison qu'il a beaucoup aidé et soutenu un de mes compositeurs préférés, qui est Fauré. Et Fauré avait une admiration profonde pour Saint-Saëns, ça veut dire beaucoup quand même, sur la qualité du bonhomme. Je trouve le cycle des concertos pour piano plus intéressant quand même que si on devait se lancer dans une œuvre pour... dans une intégrale musique de chambre de Saint-Saëns. Cela dit, pourquoi pas.
Et d'ailleurs, je crois que Brahms avait joué à Strasbourg le deuxième. Le Saint-Saëns avait joué le deuxième de Brahms à Strasbourg.
Ah oui, c'était un grand pianiste. Hein.
Grand pianiste, tout à fait. Oui. Au moyen phénoménal.
Oui.
Bon, on va vous écouter dans le mouvement final. Allez. Du cinquième concerto, dit l'Égyptien, de Camille Saint-Saëns. Vous êtes avec les musiciens de l'orchestre de Malmö, placé sous la direction de Marc Soustrot. Thank you. Voilà le mouvement final du 5e concerto pour piano en fa majeur, opus 103 de Camille Saint-Saëns, Romain Descharmes piano, l'Orchestre symphonique de Malmö, placé sous la direction de Marc Soustro, un disque Naxos. Eh bien, un grand merci à vous d'avoir participé à cette émission. Quel sera l'été pour l'un et pour l'autre ?
Beaucoup, beaucoup de choses. Déjà tous les deux, on se retrouve pour faire l'intégrale des sonates de Beethoven à l'île de Ré.
En une journée.
Ouais. En une journée, ouais. Parce que maintenant... On fait ça en une journée, c'est le nouveau défi. Ouais. Et puis, beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets en France et en Italie. Et, pas que tous les deux, d'ailleurs. Enfin, voilà.
Oui, voilà. La Baule, le 12, pour moi, le 12 juillet. Après-demain, je ne sais plus où.
C'est difficile, en fait, ouais, quand on n'a pas l'agenda sous les yeux, de se dire alors, où est-ce que je suis là,
On a une faculté d'oublier ce qui s'est passé et de ne pas savoir ce qui se passe, qui est assez impressionnante.
Donc, en tout cas, j'espère que vous n'oublierez pas cette émission.
Non.
On se retrouve demain et mes invités seront les membres du Quatuor Ciné-Nominé et Jean-François Gouiner. Merci à Maxime d'avoir réalisé cette émission. Maxime qui était assisté de Yamina.
Opus, Festival international de musique de Colmar, hommage à Evgeny Kissin. Une émission d'Accent 4, en partenariat avec le Festival international de musique de Colmar et avec le soutien du CICS Tarpège Armand Meyer et de l'hôtel Le Maréchal de Colmar.